Interception.
Bonjour. Ça n'est pas une religion, ça n'est pas non plus une simple gymnastique, car il fait appel à la fois au physique et au spirituel, au corporel et au mental. Le yoga est né en Inde il y a 5000 ans, mais il s'est imposé chez nous en Occident et particulièrement en France. Une école française du yoga a même vu le jour il y a une trentaine d'années, elle a déjà formé 2000 enseignants. Dans les années 60 et 70, le yoga était souvent perçu comme une pratique exotique, professée par des gens marqués par leur découverte de l'Inde. Aujourd'hui, il s'est dépouillé de ses aspects folkloriques. Il a gagné en sobriété et il touche un éventail très large de populations, tous âges, tous milieux, le cadre commercial urbain comme l'agriculteur, l'enseignant ou l'employé. Tous viennent y chercher détente, relaxation, découverte du corps, mais aussi élévation de l'esprit. L'an dernier, pour Interception, Sophie Becherel et Frédéric Cayrou ont voulu vérifier cette diversité de pratiquants et recueillir leur opinion sur une discipline qui est devenue au fil des temps indispensable à leur équilibre de vie. Yoga, l'esprit de corps.
Interception, le magazine de la rédaction.
Il y a une vache.
Oui, j'ai vu des vaches. Ouais.
C'est vrai, moi aussi.
Alors on est où là, Annick ?
Eh bien ici on est dans la ferme que j'exploite avec mon mari. Donc je suis agricultrice en production laitière. Donc je fais des vaches, du lait de vache.
Et là c'est l'heure de la traite ?
Là ça va être l'heure de la traite, oui. Elles attendent, elles sont rentrées là. Elles ont pris leur temps de manger un petit peu. Et puis voilà, elles attendent d'aller donner leur lait. Je vais démarrer la machine, ça va faire un peu de bruit. Un peu plus d'une heure, vers une heure et quart à peu près.
Vous pouvez nous dire ce que vous faites là ?
Oui, donc je commence par nettoyer le pis de la vache avant de poser le faisceau trieur, donc il va lui permettre de donner son lait.
Ici, Annick, en pleine activité, on se demande où vous trouvez le temps de mettre un cours de yoga.
Ah ben, on se l'impose un petit peu. C'est vrai que ça fait tellement de bien que c'est pas un effort d'y aller.
Et qu'est-ce que ça vous apporte ?
Ben, en fait, je suis quelqu'un de plutôt anxieux au départ, et avec le métier que je fais, donc le fruit de notre travail est. Dépend de nous, bien sûr, mais ça dépend aussi de tellement d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Enfin, c'est à l'origine de beaucoup d'inquiétudes et de tout ce qui est aléa climatique, on ne peut pas agir dessus. Tout ce qui est les problèmes sanitaires qui arrivent éventuellement sur les troupeaux, bon, on ne peut rien y faire non plus.
Le cours du lait,
voilà, exactement. Donc là, ça fait déjà un an et demi que le prix du lait est plutôt reste à la baisse, mais très très bas. Donc c'est vrai que tout ça est très très stressant dans la mesure où ça peut compromettre très vite la viabilité de l'exploitation et donc de la vie de la famille. Et le yoga dans tout ça, c'est moi j'apprends avec la pratique à repérer, à mieux sentir dans quelle partie du corps je mets toutes ces tensions là finalement. Et je crois que tout le travail fait en yoga, ça consiste à à apprendre à accepter de relâcher toutes ces tensions-là, c'est parce que c'est vraiment un travail. Mais bon, il y a une récompense parce que quand on est détendu physiquement, c'est vrai que ça apaise le mental aussi. Donc, au final, je pense que le yoga m'aide à se libérer, en tout cas, des tensions créées par dans ce métier-là ou des aléas qu'on ne maîtrise pas. Voilà.
Ça vous aide à tenir debout, vous diriez ?
Je pense qu'en partie, oui, ça m'aide à, en tout cas, ça solidifie le dos, en tout cas, c'est le cas de le dire, et la colonne vertébrale, oui.
On parle beaucoup de la solitude des éleveurs. Est-ce que le fait d'aller à un cours, c'est aussi retrouver des gens, avoir une vie sociale ?
Oui, tout à fait, c'est même très important, parce que quand c'est vrai que les difficultés, parfois, ça s'accumule un petit peu, on aurait tendance à se replier un peu sur son travail, sur sa vie de famille, et puis... Alors que finalement, c'est d'aller vers les autres, de retrouver d'autres, justement, qui font tout à fait autre chose dans leur vie. Bon, dans ce groupe, il y a pas mal de retraités qui ont des vies tout à fait riches aussi. De parler d'autres choses, c'est aussi important de rencontrer d'autres personnes. Et puis, c'est vrai que c'est un cours sympa, quoi. Je pense que ça fait tellement partie de ma vie que non, il n'y a plus besoin d'en parler. C'est naturel. C'est mon truc, quoi.
Sentez rouler votre bassin. De temps en temps, vous changez le sens de rotation. Et vraiment, n'hésitez pas à aller chercher très très loin derrière vous, sur les côtés, devant vous. Voilà, vous travaillez dans la souplesse de votre taille, mais vous essayez malgré tout d'aller jusqu'où vous pouvez aller.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien ?
Bien, merci.
Fraîchement, hein ?
Oui.
Merci d'être venu nous voir.
Ouais, il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Donc, je suis Clotilde Vic et je suis professeure de yoga à Quimper et aux alentours de Quimper. Et là, je vous emmène en dehors de Quimper, puisqu'aujourd'hui j'ai cours dans les villages au nord-ouest de Quimper qui s'appellent Gwengat et Plogonec.
Inspire, retournez les paumes de main pour libérer la tension dans les bras et accueillez une respiration spontanée.
Voilà, donc dans cette salle, je prends soin d'arriver un petit peu en avance parce qu'il n'y a pas de chauffage en permanence. Donc il faut que j'ouvre le compteur et que j'allume les radiateurs. Voilà, je vous laisse entrer. Des élèves une petite base de matériel, un petit banc, coussin pour qu'ils puissent améliorer le confort de leur posture en fonction de leurs possibilités ou de leurs limites, parce que j'ai évidemment dans les cours des personnes d'un certain âge ou des personnes qui ont des difficultés physiques ou qui ont eu des interventions en genoux, épaules. Donc voilà, on essaye de prendre en compte tout ça.
Pas se faire mal.
Non, ah non.
C'est la première règle d'or du yoga. C'est la non-violence et elle commence par soi.
Ne pas se faire mal.
Voilà. Bonjour.
Salut Nicole.
Ça va ?
Bonjour. Ouais.
Ça va.
Bienvenue.
Bah, ma foi.
Voilà, Annick, super.
Ça va, Annick.
Voilà.
Une vraie scalpe de
cuir.
On est peut-être
timidé
ce matin.
On ne va pas.
Non,
pas au contraire.
Bonjour Marie-Annick.
Bonjour. Ça va ? Est-ce que tout le monde va bien ?
Oui.
Bien. Donc on peut démarrer tranquillement. Alors je vous propose de vous mettre debout. Je vous invite à placer vos pieds
sur le sol, parallèles entre eux, écartés de la largeur de vos hanches. À l'aplomb de vos hanches, les jambes tendues et tranquillement, la tête qui se place au sommet de l'axe vertébral, les yeux se ferment et laissez le regard se tourner vers l'intérieur. Le souffle alors peut se libérer dans un soupir, dans un bâillement. Prenez le temps d'accueillir le souffle de l'instant. La conscience de l'inspire et de l'expire. Et peut-être des petits temps de suspension, poumon plein à la fin de l'inspire, poumon vide à la fin de l'expire. Le visage est détendu, le front déplissé, les mâchoires desserrées, les paupières lourdes. Venez vous installer dans votre bassin. Laissez votre corps se balancer très légèrement de l'avant vers l'arrière pour bien prendre la conscience de vos appuis des talons jusqu'au bout des orteils en passant par les bords externes. Lors de votre prochaine inspire, les deux bras montent rapidement vers l'avant et vers le haut. Allons-y ensemble. Et en expirant, laissez-les descendre vers l'avant en les laissant secouer. Et vous pouvez souffler par la bouche. Les genoux sont souples, ce qui permet d'avoir des jambes un petit peu comme des ressorts pour lâcher. Et on reprend plusieurs fois. Inspire, monter, grandir. Expire, descendre, lâcher, secouer. Voilà. Plusieurs fois. Allez, laissez-vous entraîner. C'est le rythme du souffle et le rythme des bras qui vous entraîne. Voilà, c'est ça.
J'ai eu des professeurs qui ne participaient pas avec les élèves.
Donc et des professeurs statiques devant vous.
Oui, qui étaient assis en tailleur et qui vous expliquaient très bien le cours. Mais ça me perturbait. Il y avait une l'impression qu'il y avait quelqu'un, un yogis devant, comme ça, là, une statue qui vous parle, et puis vous êtes en train de faire. Et je ne voulais pas continuer, ça. C'est une tendance à déraper, peut-être. Je n'avais pas envie de faire des positions de yoga devant quelqu'un qui ne participe pas, qui ne vous dit pas comment faire, qui ne vous aide pas un tout petit peu. C'était un peu gênant.
Oui, cette non-participation du professeur.
Oui, voilà, il faut qu'il y ait une participation collective avec celle qui vous... C'est comme quand vous apprenez la musique, c'est pareil. Si votre professeur ne vous montre pas comment il faut faire et qu'il arrive sans instrument, c'est évidemment, c'est pas facile à apprendre.
Là, voilà. Vous y trouvez votre compte, même si vous êtes dans un univers très féminin.
Oui, ça ne me gêne pas du tout. J'apprécie beaucoup la personne qui fait le cours et qui a une approche, qui est attentive, qui nous montre. On sent qu'il y a une attention à notre égard aussi. J'apprécie énormément d'aller pendant une heure profiter d'aller regarder, discuter avec mon corps, quoi. Même s'il a un certain âge, mais de lui causer un petit peu, même s'il y a quelques souffrances de temps en temps, parce que je fais du travail physique, je suis ouvrier, donc je suis en permanence en train de solliciter mon corps. Par la respiration et par la douceur de nos mouvements, on va dire bonjour à l'ensemble de nos cellules à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire que le travail de concentration, quand on nous dit d'aller dire, se concentrer sur le bout de ses doigts, le bout de ses pieds, ses talons ou autre, c'est comme si notre cerveau, avec une petite caméra, on allait parler à l'intérieur du corps. Et c'est ça qui me passionne. C'est-à-dire que j'apprécie énormément d'aller... pendant une heure, profiter d'aller regarder, discuter avec mon corps, quoi.
Et du coup, ce qui vous plaît, est-ce que c'est cette douceur, cette approche effectivement non-violente ?
Non-violente, oui. Une démarche non-violente du corps et avec une concentration très pointue, tout le temps. C'est-à-dire qu'on va dans des positions qui sont alambiquées, si on pourrait dire ça, un peu tordues, mais tout en douceur, et qui vont pointer, vous faire respirer, vous faire sentir des parties de votre corps que vous n'iriez jamais autrement, sans la concentration. Parce que vous êtes obligé de rester dans des positions avec le bras dans un sens et puis la tête dans l'autre qui regarde. Et vous tordez d'une certaine manière, tout en douceur. Et donc, vous ressentez effectivement que l'ensemble de vos muscles, ils sont pas si souples que ça, quoi. Voilà.
Après une séance, vous, par exemple, vous avez mal ? Enfin, est-ce que votre
corps... Non, pas du tout. Je suis dans un apaisement énorme. Une tranquillité, un apaisement, et puis qui perdure jusqu'à la séance suivante, à peu près une semaine. Ça, j'ai l'impression que tout est fluide à l'intérieur de soi-même.
Plusieurs personnes parlent du bien-être aussi, moral.
Moi, je remarque, ça fait 3 semaines que j'ai recommencé, et ça fait 3 semaines que je ne fais que rire.
Et chez vous, c'était euphorisant.
Oui, je vais au boulot. J'ai beaucoup d'humour, j'aime bien travailler avec le sourire. Une certaine philosophie de vie, mais il s'avère que ça m'a remis en route, quoi, comme avant, quoi. Donc j'arrive tous les jeudis, je m'empresse de venir.
Alors Clotilde dit qu'on se retrouve là, sur la plage en baie de Douarnenez. C'est un endroit magique entre terre et mer, le lieu de votre travail en quelque sorte.
Oui, puisque je travaille dans cette région, au nord-ouest de Quimper, donc sur les villages de Gouengat et de Plogonnec. Alors j'enseigne depuis l'année 2004 et j'enseigne essentiellement à des adultes. Et depuis 2 ans, une petite expérience dans un collège avec des jeunes ados de 6e et 5e.
Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à vos élèves ? Quelle forme de yoga, par exemple, vous enseignez ? Et quel est votre objectif ?
Alors, moi, j'enseigne ce qu'on appelle le Hatha Yoga, c'est-à-dire le yoga qui utilise le corps comme outil. Donc, toutes mes séances vont travailler en partant d'une expérience corporelle, mais en faisant intervenir évidemment le souffle, à partir de la respiration et du mouvement du corps dans l'espace, mouvement dynamique ou mouvement en statique, enfin c'est plus un mouvement, du coup quand on s'arrête en statique, ça s'appelle une posture. Les pratiquants vont découvrir ou apprendre ou redécouvrir leur corps, leurs capacités, leurs limites.
Mais il vous semble qu'on peut faire n'importe quoi dans le yoga, qu'il y a une éthique à conserver parce qu'il y a effectivement des dérives ou des formes un peu trop fantaisistes de cette pratique ?
Oui, moi je pense qu'il faut faire très attention. Notamment le yoga donc, trouve sa source en Inde, en Orient. Nous sommes ici en Occident et... Pour moi, c'est très important de respecter nos différences. Alors, bien sûr, on a à s'enrichir les uns les autres et on a beaucoup à apprendre de l'Orient, mais on ne peut pas non plus bousculer toutes les habitudes culturelles des Occidentaux. Donc, moi, je travaille avec les gens qui vivent ici, ruraux pour la plupart. Je me dois de respecter leur état de vie, leurs habitudes qui passent aussi des habitudes alimentaires, des habitudes de rythme de vie et je dois tenir compte des corps qu'ils ont. Mon objectif n'est pas brutalement d'apporter des choses de l'Orient sans prendre soin de ce qu'ils sont ici et maintenant.
Qu'est-ce que vous vous interdisez par exemple de faire ?
Par exemple, je ne parle jamais de but en blanc, de spiritualité ou par exemple de religion. Alors pour parler clairement, j'ai certains élèves qui me demandent « Mais est-ce que pour faire du yoga, il faut être bouddhiste ?» J'ai déjà eu cette question. Je leur dis que non. Mais qu'évidemment, le bouddhisme est une religion qui est développée en Inde et qu'il y a des personnes qui pratiquent le yoga et qui sont bouddhistes. Mais le yoga n'est pas une religion. Par contre, le yoga les inclut toutes, le yoga les respecte toutes. Donc, plutôt que de répondre à la question « qu'est-ce que je m'interdis ?», je répondrai « qu'est-ce que je m'autorise à leur dire ?» Je m'autorise à leur parler de leur corps et d'apporter le plus de finesse possible dans la position du corps dans l'espace, dans l'accompagnement du geste par le souffle. Voilà, j'essaye de développer cette attention. Et forcément, quand on développe cette attention, ils sont obligés d'être concentrés. Et quand on est concentré, eh bien, le mental est occupé à cela. Et ça permet aussi à certaines personnes qui ont une agitation du mental de s'apaiser un peu.
Je m'appelle Isée Tardan-Masquelier et je suis historienne des religions de formation. Et mon domaine de spécialité, c'est l'hindouisme. Et en même temps, je fais du yoga depuis très longtemps. J'ai été amenée à faire une école de formation d'enseignants de yoga. Et cette école, j'en suis devenue la directrice de l'école française de yoga.
Aujourd'hui, comment se pratique le yoga à l'occidental? Quels aménagements ont dû être faits pour que finalement les publics occidentaux y trouvent un bénéfice?
Le yoga était plus indien après 68. On allait se former en Inde. Bon, l'Inde n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une vraie aventure. Et moi, j'ai eu des profs, enfin, on a tous eu des profs qui allaient chaque année, en février-mars, parce que c'est la meilleure saison, travailler avec leur gourou indien. Donc, c'était vraiment ça. Alors, il y avait des choses qu'on a complètement abandonnées, les petits Bouddhas et les petits Shiva dans les salles, l'encens, etc. Bon, ça se fait plus beaucoup, ça se fait certainement encore un peu, mais ça se fait plus beaucoup. Il y a eu aussi une influence des milieux américains, des médias, etc., qui ont repris le yoga dans une perspective très profane et assez utilitariste, finalement. C'est le yoga bien-être, c'est le yoga harmonie du corps et de l'esprit. Voilà, donc tout ça a participé à désorientaliser le yoga, si je puis dire, désindianiser un peu le yoga. Et en même temps, le groupe auquel j'appartiens et ceux avec qui je travaille, nous essayons de rester fidèles aux sources par une lecture des textes qui ont porté cette philosophie du yoga. Ça nous paraît important de garder ce lien à la source, d'aller aussi travailler en Inde éventuellement, tout en étant très occidentaux. En Inde, on est encore beaucoup dans une relation traditionnelle qui est celle de maître à disciple. Ici, on est dans une relation qui est enseignant-enseigné. Bon, on voit bien que ce n'est pas la même chose, qu'il y a ce coefficient de sacralité, de vénération, au sens tout à fait positif du terme, en Inde. Et si on transpose l'enseignement du yoga avec ce même coefficient ici, ça pose problème. Cette sorte de vénération qui entoure le maître, elle ne peut pas entourer l'enseignant ici. Ou alors, les personnes, le public qui reçoit cet enseignement peut vite être inquiet de se trouver face à une dérive sectaire.
Comment résumer la philosophie du yoga et puis mettre ça en parallèle avec les différentes sortes de yoga qu'on a à disposition en Occident? Parce que si on veut effectivement pratiquer le yoga, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de formes.
C'est vrai. Alors, si on veut la source commune, c'est un texte qui s'appelle les Yoga Sutras, ça veut dire les aphorismes du yoga, c'est un texte philosophique. Et à notre grande surprise, en tout cas à la mienne, parce que quand j'ai lu les Yoga Sutras pour la première fois, enfin une traduction des Yoga Sutras, j'ai été très surprise. Il n'est pas du tout question des postures, des différentes postures, de se mettre comme ci, comme ça, de faire des torsions, etc. Pas du tout. En fait, c'est un court ouvrage de philosophie qui ressemble à la philosophie grecque et qui trace l'épure d'une discipline qui est une discipline d'évolution pour l'être humain, corps et esprit, et qui cherche à répondre à une question qui était très présente dans la culture indienne à cette époque-là, à la suite du Bouddha et puis de diverses transformations. La question, c'était pourquoi est-ce que l'être humain est malheureux? Donc, en fait, les Yoga Sutras font une analyse et propose un remède au sens large du terme, qui est une voie de libération de ses attachements, de sa violence, et qui est le yoga. Donc ça, c'est la source commune. L'Inde, au cours de son évolution, depuis cette antiquité donc, qui est la source, les Yoga Sutras de Patanjali, avait déjà diversifié et donné des noms. Il y avait plusieurs courants. Il y avait un courant qu'on appelle le Karma Yoga. Karma, ça veut dire l'action. Donc un yoga dans la vie qui privilégie l'énergie de l'action. Donc une discipline psychocorporelle qui permet de bien agir. Un yoga de la connaissance, c'est-à-dire qui est plus tourné vers l'intellect et l'intelligence subtile au sens large du terme, donc qui implique la concentration, la méditation, le calme de l'esprit, etc. Et puis un yoga qu'on appelle dévotionnel, qui est un yoga qui est plus mystique, qui se tourne vers une présence divine, alors Shiva, Vishnu, enfin, etc., les dieux de l'Inde, avec une culture de la reconnaissance, du souffle qui unit au divin, enfin, etc.
On peut donc trouver différents yogas qui ne s'excluent pas l'un l'autre, mais qui conviendront plus ou moins bien à sa propre personnalité, finalement.
En fait, oui, il y a beaucoup de courants aujourd'hui. Je pense qu'il y a un fond commun à tous ces courants qui est, en tout cas pour les Occidentaux, la recherche d'une harmonisation et d'une réunification entre le corps et l'esprit. C'est ça vraiment qui est fort chez nous. À chacun de trouver ce qu'il lui faut avec un minimum d'esprit critique et en voyant toujours si les professeurs qu'il essaye, auxquels il s'adresse, etc., ont une formation correcte. Ça suffit de leur demander. Voilà, s'ils ont une vraie formation, ça se sait.
Alors voilà, là on est à Boulogne et on va donc à la rencontre de Béatrice Burgi, professeure de yoga, qui a un peu changé de vie grâce au yoga.
Oui, bonjour, c'est Sophie et Frédéric. Merci.
Je suis mère de famille, j'ai deux enfants, j'ai 47 ans et depuis quelques années, j'enseigne le yoga et juste à côté de la maison. Donc c'est un vrai confort de vie que de pouvoir travailler quasiment chez soi. Alors je suis arrivée au yoga vraiment par hasard. J'avais en charge le marketing direct de Canal+ et de Canal Satellite. Enfin, j'adorais ce métier, très prenant, très valorisant. Voilà, une rémunération aussi financière qui vous positionne dans la société. C'était passionnant.
Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, vous prenez un virage ?
Il s'avère que les enfants arrivent, sont là, vous transforment certainement, que vous-même, l'approche de la quarantaine, on commence à se poser des questions. On essaie de chercher un peu de sens à sa vie. Où est le sens ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Les années qui me restent à vivre, comment je les vois ? Enfin, toutes ces questions-là se sont posées. J'ai pris à peu près une année pour quitter la société dans laquelle j'étais. Voilà, j'avais pris la décision et changé de cap en toute sérénité et de façon très harmonieuse, j'ai envie de dire. Je sentais que ça me correspondait, voilà, qu'il y avait quelque chose d'enfoui peut-être et que j'arrivais à peut-être mieux m'épanouir ou me sentir plus utile. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là, de sentir qu'on apporte et qu'on laisse une empreinte aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui est autre chose que faire fructifier les actifs des entreprises. Bon, c'est aussi très valorisant, c'est vrai. Hein, j'étais ravie de recruter de nouveaux abonnés pour Canal+, entre autres. Mais bon, à un moment donné, on a envie de passer à autre chose aussi, peut-être. Je sentais que j'avais réussi cette mission-là et que peut-être j'en avais d'autres à vivre ailleurs, dans d'autres domaines.
Mais que vous apporte en plus ou que vous apporte différemment la pratique du yoga et l'enseignement du yoga ?
Je suis plus dans l'humain, dans la relation à l'autre. J'ai la chance d'avoir des élèves qui sont et des profils d'élèves très variés. Là, il y a une grande proximité avec l'humain que j'aime beaucoup. Voilà. Je le vis comme un métier, bien sûr, mais je crois qu'il y a toute votre personne qui passe à travers l'enseignement du yoga. Et c'est pour ça, j'en reviens à ce que je vous disais, ma vie professionnelle qui a été riche, et je le reconnais, je l'ai beaucoup aimé, m'aide aussi à comprendre ce que c'est que le stress, et parce que moi-même je l'ai vécu à certains moments de ma vie. Donc quand j'ai des élèves qui arrivent, j'ai des hommes d'affaires, par exemple demain matin, voilà, c'est un homme d'affaires que j'ai en cours individuel aussi, eh bien, qui est très tendu, très stressé, ben, je sais de quoi il me parle parce que moi-même, je sais ce que c'est que des tensions qui peuvent se mettre sur le haut du dos, le réveil en pleine nuit parce qu'on pense à un dossier qu'on a peut-être mal ficelé. Donc, ce genre de choses me parlent parce que je l'ai moi-même expérimenté. Et je crois beaucoup justement à l'expérimentation, au fait que tout le travail du yoga, c'est un travail d'expérimentation, de passer à travers, par le corps pour expérimenter, pour sentir, pour faire évoluer, pour avancer, pour se transformer. Enfin bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue notre petite conversation dans la salle de yoga.
D'accord.
Parce que j'ai parfois des élèves qui arrivent un petit peu à l'avance. Comme ça nous permettra de continuer. Petite école Montessori, juste à côté. Attendez, des petites voix d'enfants. Faites attention, il y a deux petites marches et on y est. Vous voyez, c'est pas bien loin. Hein. Ben, bienvenue à l'appart zen, qui est le nom de cet appartement.
Très bel endroit, avec poutre apparente, parquet.
Alors, voilà, les élèves commencent à arriver. Eh bien, écoutez, c'est la première qui arrive, ça tombe très bien parce que Anne est ma première élève. C'est celle qui pratique le yoga depuis le plus longtemps, c'est-à-dire qu'elle m'a fait confiance dès le début. Ça a été ma première élève et fidèle, on peut dire, parce que 8 ans après, elle vit encore entre midi et deux.
Chez
Canal.
Ah, donc vous êtes des anciennes collègues.
Exactement.
Nous sommes des anciennes collègues. On travaillait ensemble chez Canal et quand j'ai appris sa reconversion, je me suis intéressée au yoga. Et voilà.
Le yoga, pour beaucoup de gens, ça représente de la détente et de la respiration. Maintenant, je leur dis, c'est pas vrai. Enfin, le lendemain, on a vraiment des courbatures, quoi. Et, on travaille vraiment. Donc, quelque part, voilà, je dis que je fais 1 heure de sport et ça me réconforte. Voilà. Après, je suis quelqu'un de très émotif, d'angoissé généralement dans la vie. Hein, voilà. Je prends un petit quart de Lexomil pour me décontracté de temps en temps, et je me suis aperçue, j'ai dit ça à Béatrice, mais peut-être au bout de 2-3 ans, j'ai réalisé que, en fait, le lundi après-midi, j'en prenais plus. Donc je pense que je me libère de plein de choses, de plein d'angoisses, le fait de respirer, de faire du sport, de s'extérioriser, puis de se concentrer sur ce cours de yoga, parce qu'avant aussi, j'arrivais pas à en sortir, quand on se relaxait, je repensais au boulot. Depuis que j'ai réussi à faire ce travail et à réussir à vraiment être dans le cours de yoga et à me concentrer sur ce que je fais, et ben je me suis aperçue que l'après-midi, j'avais plus de ces angoisses et j'arrivais vraiment à rester dans le cours et à m'en dégager pendant 1 heure. Voilà.
Ça veut dire que ça vous est devenu nécessaire. Vous ne pensez pas vous priver de votre cours du lundi.
C'est pire que ça. J'aimerais bien arrêter de prendre du Lexomil et venir tous les jours. Voilà, ça serait l'idéal.
Le dos des mains revient, l'un contre l'autre, menton bien rentré. Nous vidons complètement. Et puis, début d'inspiration, nous venons tapoter notre cage thoracique depuis le haut vers le bas, du centre vers l'extérieur. Faites bien résonner. Poumons pleins, vous allez frotter votre cage thoracique. Les deux pieds s'écartent bien au-delà de vos épaules. Les bras s'étirent et pour une fois, vous expirez par la bouche. Relâchez. Et à nouveau, 6 grandes respirations. et laissez-vous pendre à partir de la taille. Abandonnez vraiment vos épaules, vos bras, votre tête. Aidez en cela par l'apesanteur.
Il n'existe pas de diplôme d'état de professeur de yoga. En revanche, il existe des formations connues et reconnues. À la Fédération nationale des enseignants de yoga, par exemple, on propose un cycle de 4 ans, soit près de 900 heures de pratique, complétée par la rédaction d'un mémoire. Puis chaque année, les enseignants sont tenus de suivre un stage pour réfléchir à leur pratique. Cette semaine-là, c'est ce que faisait avec eux Isabelle Morin-Larbet, enseignante depuis 30 ans, et le comédien Bernard Avron autour du thème de la parole.
Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe puisque ça passe par le corps. Donc il y a une intégration qui se fait, puisque pendant une heure et demie, une heure, on va être complètement avec trois éléments, vraiment comme un trépied, le corps, le souffle, et l'attention que l'on porte aux deux, hein, l'attention et l'apostrophe. Et que si ces trois éléments ne sont pas réunis, nous ne sommes pas en yoga. Et ça, le professeur le voit bien, donc le rappel harmonie, geste, souffle, rappel l'intention du cours. Tout à l'heure, je parlais de bhavana, qui est un terme sanskrit, mais qui est l'intention donnée, la couleur qui est donnée au cours. Et que les trois éléments font que nous sommes en yoga. Et qu'à force de travailler cela avec joie, hein, c'est-à-dire avec joie, avec un goût pour cela, c'est-à-dire un goût pour se mettre sur un tapis, donc on y trouve une satisfaction, employant des mots, hein, aussi une satisfaction, même si on est détaché des fruits de l'action, il y a une satisfaction, il y a un goût, il y a une joie. Et que ce travail-là, puisqu'il est incarné, vécu, à un moment donné, ça va déteindre dans la vie au quotidien. Prenons un exemple typique de la vie parisienne. Il n'y a pas de bus. Le bus a 10 minutes de retard. Lorsqu'on sort d'un cours de yoga, on peut se dire, bon, eh bien, je vais attendre tranquillement, sans s'énerver. De toute façon, quelle folie de penser que je pourrais agir par mon énervement, par ma colère, par mes grognements, sur cela.
Pour moi, c'est une vraie recherche de transposer ce lâcher-prise qu'on éprouve dans le yoga dans les relations, par exemple, conflictuelles, dans le fait d'être père, le fait de devoir organiser des choses dans le travail, etc. Il y a un lâcher-prise qui est tout à fait bénéfique et qui est d'une recherche de tous les jours. Enfin, il y a toujours à découvrir là-dedans, à avancer, vraiment.
Alors là, le mot que tu as lâché, c'est un mot essentiel pour moi. C'est transposition. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va utiliser avec l'imagination, avec son soi, tous les éléments. La transposition, c'est vraiment l'art de la création pour nous au théâtre. Hein. Donc la transposition, on transpose. Tu n'es plus dans le yoga, tu n'es plus dans le cours de yoga, tu transposes le cours de yoga. Tu transposes le cours de yoga dans l'escalier du métro, dans les choses de la vie quotidienne, comme tu nous as dit. Je vais plus loin et je vous interroge. Est-ce que c'est encore valable, cette transposition, et encore possible, quand ce n'est plus les petites choses de la vie quotidienne? Mais quand ça touche des choses très dramatiques qu'on connaît tous quand on commence à être âgé, hein, est-ce que ça a encore une résonance à ce moment-là, hein?
De saisir le vieillissement. On n'est pas protégé du tout, en fait, de tout ce qui peut arriver, des deuils, des séparations. On vit exactement les mêmes choses que les autres, mais on a des outils. En fait, sur le yoga, on applique les règles de vie du yoga, qui s'appellent les yamas, et la manière de les appliquer, les niyamas. Et du coup, si on se les applique sur le tapis, ce sont des valeurs, elles ne sont pas uniquement valables sur le tapis. Enfin, dans la vie au quotidien, dès qu'on ouvre un œil le matin, jusqu'au moment où on le ferme le soir, on vit ça, on transpire ça, on respire ça, et les autres le reçoivent. Et on est les premiers bénéficiaires, effectivement. Mais c'est l'œuvre d'une vie.
Oui, c'est jamais acquis.
Non.
C'est jamais acquis. Tout le travail du yoga, c'est de se remettre sur un tapis de yoga, quel que soit notre vie en yoga, que ce soit 5 ans, 30 ans, 40 ans. S'il y a un maître en yoga, c'est le tapis de yoga.
C'est-à-dire que quand on se met sur un tapis de yoga, qu'on pratique, que le corps est en exercice avec le souffle et la tension, on se rend bien compte qu'il y a des obstacles, que la posture qui la veille nous était d'une facilité incroyable, on la recommence le lendemain pour X raisons, parce que justement on aura appris une mauvaise nouvelle, ou au contraire une nouvelle qui nous transporte de joie, va modifier notre état sur le tapis. Et le corps nous dit ça de nous, et que le tapis nous apprend la patience et l'humilité. Le yoga rend tout sauf indifférent. Au contraire, plus on avance et plus, je dirais, à la limite, on est à fleur de peau. Dans les deux sens, les joies sont d'autant plus grandes, mais les chagrins et les peines qu'on a toujours sont d'autant plus grands aussi. En revanche, on a une juste distance pour apprécier cela. C'est-à-dire qu'on se connaît aussi et on sait ce qui nous touche profondément. Et qu'on va se donner un temps pour accueillir la nouvelle, l'obstacle, la difficulté ou la grande joie.
Moi, je trouve que le yoga m'a beaucoup aidée à accepter de considérer la vieillesse en face, de la regarder, de ressentir sur moi, de voir ce qui se passait et de le sentir et de pouvoir le nommer. Et je n'ai pas rencontré beaucoup de gens en dehors du monde du yoga qui m'ont aidée et encouragée. Il y a les stages pour les seniors, moi j'en ai suivi plusieurs, mais vraiment ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à avoir le courage de regarder et de m'apaiser sur le vieillissement. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des personnes qui sont à la retraite et qui sont dans des maisons de retraite, dans des maisons de soins. La vieillesse, je pense que c'est vraiment le chemin de la conscience. Hein. C'est notre cheminement vers toujours plus de conscience. Et quand on comprend ça, alors c'est merveilleux. C'est un âge d'or.
Le yoga, selon vous, c'est avant tout un chemin vers la connaissance de soi ?
C'est la connaissance de soi et c'est surtout l'autonomie. C'est rendre l'autre indépendant, lui donner les outils pour qu'il puisse avancer dans la vie, d'être en confiance, parce que justement il va se connaître et dans son corps et dans son psychisme, hein, bien sûr, puisque les deux sont tout à fait liés, et qu'il aura cet élan de joie à vivre. Alors, pas du tout cucu la praline, hein, vous voyez, pas du tout peace and love, c'est pas exclusif, mais c'est cette confiance dans son désir de vie. Le yoga, c'est un désir de vie. Ça n'est pas un ego dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire un moi-je envahissant, mais oui, je suis moi, oui, j'ai une place, toute ma place, mais rien que ma place, à la fois physique et psychique, et affective, bien évidemment. Et c'est ce que tend le professeur de yoga, c'est-à-dire donner à l'autre la possibilité de s'autoriser à vivre et à être ce qu'il est, ce qu'il est.
Yoga, l'esprit de corps. C'était un reportage de Sophie Becherel, prise de son Frédéric Cayrou, mixage Manuel Couturier. Cette émission a été réalisée par Anne Lureau avec l'aide de Valérie Bourg. Toute l'équipe d'Interception vous présente, c'est la tradition, tous ses vœux les plus sincères pour l'année 2012 et vous espère encore plus nombreux et critiques à l'écoute de nos reportages pendant cette année.
Merci à Pascal Dervieux, c'était donc Interception, le magazine de la rédaction de France Inter. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet du jour, rendez-vous sur le site internet de France Inter. Vous y trouverez bien sûr tous les éléments qui vous seront utiles d'ailleurs pour compléter votre information. Mmh.
neige. Et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pût préserver la fraîcheur de l'île. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une main. Prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protéger les droits du copyright opérant. C'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un sang.